Savez-vous que dans le 19e arrondissement de Paris, vous pouvez trouver une ferme ?
Ou une caverne d'Ali Baba ?
Nous, éco-délégués du collège Georges Brassens,
avons sélectionné des espaces où l'écologie et la solidarité battent leur plein.
La ferme du Rail, espace 19.
Les canaux ?
Débrouille compagnie.
La maison des réfugiés.
Nous sommes allés sur place pour interviewer les personnes qui font vivre ces lieux.
L'année dernière, les éco-délégués sont allés à l'Académie du Climat
pour créer une carte gravée en bois de ces espaces.
Avec l'association de design Tumo.
Avec Trans Sonore,
nous l'avons transformée cette année en une carte sonore des lieux engagés.
Dans l'écologie et le développement durable.
Pour chaque endroit que nous avons visité,
une présentation, des interviews
et des ambiances sous forme de podcast.
Bonne écoute!
Des chaises multicolores en plastique, des tables en bouchon ou une terrasse remplie de cordes d'escalade. La maison des canaux comporte plein d'œuvres d'artistes étonnantes.
Le long du canal de l'Ourcq, proche de la station Stalingrad, l'ancien bâtiment de l'administration des canaux a été complètement transformé. À l'intérieur, on remarque un plafond en papier cuisson qui nous fait penser à des nuages.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
On est en dehors des canaux, on est sur une terrasse face au canal et au MK2. C'est un bâtiment du coup qui est vieux.
Il y a marqué les chaos en haut, il y a même la date 1882 si je ne me trompe pas sur l'écriture. Et c'est vrai que ça peut paraître assez vieux, mais c'est joli, c'est agréable.
On voit de la végétation, beaucoup de végétation sur la terrasse.
On voit aussi que toute la terrasse a été pensée en surcyclage ou en réutilisation, parce que on voit le grillage qui est fait en élastique d'escalade.
Ce lieu chaleureux accueille maintenant l'association Les Canaux, qui met en avant l'économie circulaire dans les secteurs du bâtiment, du textile et du mobilier. On a rencontré Hermione, en service civique au sein de l'association, qui nous a expliqué son fonctionnement.
Bonjour, moi c'est Hermione. Je travaille au canot, à la maison des canots, depuis 2 mois maintenant. Et je suis en service civique et je suis chargée de projets événementiels.
Quelle est la mission ou l'objectif principal de votre association ?
Alors, la maison des canots, elle travaille sur 3 métiers. Mais l'idée globale, et donc ses missions globales, c'est de faire progresser les économies dites engagées, donc plus circulaires, solidaires et locales, et de développer des structures de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'idée est d'attirer le grand public, que ces économies dites engagées soient visibles auprès du grand public. Sinon, il y a un autre métier qui est d'accompagner des structures sur le marché de l'économie sociale et solidaire, d'intégrer dans leurs activités des principes d'économie circulaire. Toutes ces structures-là, elles partagent des fondamentaux, des socles communs, donc une gouvernance démocratique. En général, dans les entreprises classiques, le patron, il va avoir plus de voix, il va avoir plus de force et de puissance dans les prises de décision. Quand tu es une entreprise ou une association du secteur de l'économie sociale et solidaire, le patron, il n'a pas plus de voix. Un autre levier aussi partagé par toutes ces structures, c'est la gestion désintéressée. Donc, encore une fois, dans le modèle qu'on connaît, on incite au profit. Profit, c'est quand on gagne de l'argent et il y a un excédent d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait de cet excédent d'argent ? On est toujours dans cette recherche de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? En général, le patron garde l'argent pour soi. Si tu veux être une structure de l'économie sociale et solidaire, tu es obligé de réinvestir, réinjecter directement dans la structure ce trop d'argent que tu as fait. Donc, par exemple, augmenter les salaires des services civiques. Je rigole, c'est pour moi ça. En vrai, augmenter une augmentation des salaires, ça fait partie de cette gestion qui est un peu maîtrisée du profit. Et évidemment, il n'est pas interdit de faire un excédent d'argent, donc faire trop d'argent, parce que ça permet aussi à la structure de vivre, par exemple, de réinvestir, donc de remettre de l'argent dans l'achat de mobilier, de machines. Voilà. Et ensuite, si tu veux être une structure qui appartient à l'économie sociale et solidaire, il faut que tu te rendes utile pour la France, par exemple, parce qu'on est en France. Il faut que ça ait un impact, que dans tes missions, tu intègres quelque chose de positif. Donc, soit à vocation sociale, donc on parle d'humain, donc aider des personnes, par exemple, en précarité, ou aider des femmes, ou alors à vocation environnementale. Donc là, c'est dans le respect de la nature et faire en sorte que la nature aille mieux. Et donc là, on va parler d'économie circulaire. Nous, on, dans la vie, le matin, on prend des petits-déj, on jette, mais on recycle. Ça fait partie de l'économie circulaire. Mais le recyclage, ce n'est pas forcément la plus belle solution parce qu'elle est assez polluante en termes de tri et collecte. Donc, c'est développer l'économie circulaire où, en fait, le déchet, c'est une ressource. Mais il y a une autre façon aussi, ça s'appelle le surcyclage, l'upcycling. C'est donner une nouvelle vie à un objet, le transformer complètement et aussi lui donner une nouvelle valeur. Donc, ça permet de réduire la production de déchets parce que le déchet est une ressource et permet la création d'objets. Et ça permet de réduire aussi la consommation d'énergie et de matières premières parce que, comme vous le savez, on a de moins en moins d'arbres, nos matières premières, par exemple, pour nos téléphones, on extrait du sable. Et le sable, c'est une matière, une ressource essentielle à la vie. Et pour nos petits téléphones, ça coûte très cher. Et donc, l'idée, c'est de réduire toutes ces consommations, ces surconsommations de ressources naturelles et aussi de réduire l'énergie par le développement d'énergie low-tech. Il y a high-tech. Les téléphones, c'est high-tech un peu. Et low-tech, c'est pauvre en consommation d'énergie. Par exemple, les JO, vous avez suivi un peu l'année dernière ? Oui. Alors, la fabrique, ça s'appelle comme ça depuis janvier. Et avant, ça s'appelait ESS 2024. Et donc, l'idée de ESS 2024, aujourd'hui la fabrique, c'était de proposer et d'aider les structures qui ont été accompagnées. Donc, par exemple, je vous montrerai dehors, mais il y a des tables. Elles sont faites grâce à des bouchons de bouteilles plastiques. Et donc, il y a une structure qui a développé une machine qui permet de construire des tables, des chaises avec des bouchons de bouteilles plastiques. Et donc, typiquement, ESS 2024 a aidé cette structure-là à répondre à un marché public pour un complexe nautique. Et donc, ils ont fait toutes les chaises d'un stade nautique. C'est quand même incroyable.
Et donc, du coup, sur les chaises que nous sommes assises, vous pouvez nous dire comment a été la fabrication ?
Bien sûr. Alors, ces chaises, c'est les chaises de Maximum. Maximum, qui font du mobilier en économie circulaire. Et donc, c'est du déchet industriel. Donc, en fait, un fabricant de plastique, donc soit quand on change la couleur du plastique, soit quand on change tout simplement de bonbonne de plastique, il y a du résidu qui se crée. Et ça, habituellement, c'est jeté à la poubelle. Et donc, Maximum, lui, il récupère tous ces déchets-là qui sont créés dans les grosses machines industrielles. Et après, il le refait fondre dans une coque. Et voilà, ça donne avec une seule forme. Et comme ça, on peut le faire plusieurs fois. Et par exemple, les pieds. Donc ça, ancienne chaise, assez simple, récupérée. Ces pieds-là métalliques aussi. Et il y en a qui ont des pieds en bois. Donc là, ce sont des anciens tonneaux du Jura. Voilà. Qu'est-ce que c'est à votre, enfin, vous pensez que c'est quoi ?
C'est des sacs plastiques, je pense.
Je pense que c'est du tissu, mais très fin.
Non, ça se mange pas. Oui, du papier.
Du papier cuisson, par exemple ?
Exactement. Donc ça, c'est encore une fois du déchet industriel. Donc c'est Junior Fritz Jacquet, donc c'est un origamiste. Et donc, il allait dans des usines, des usines de papier. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des déchets, mais c'était monumental. Donc, en fait, donc là, pour le papier cuisson, ça passe avec des capteurs optiques pour vérifier la conformité du produit. Il suffit qu'il y ait une mouche qui passe devant le capteur ou alors une petite tache de café. Et hop, ça part à la poubelle. Et donc, lui, il s'est dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je récupère tout ça et je vais en faire des œuvres. Et donc, tous les luminaires de la maison... pratiquement quasi, ont été faits par Junior Fritz Jacquet.
Mais du coup, les canaux, c'est surtout pour tester des prototypes de ces réalisations avant de les commercialiser ?
Non, on ne commercialise rien du tout. On fait soit le rôle de canal, donc on met en lien des superstructures avec des collectivités, par exemple. Une collectivité, elle veut que sa restauration elle soit 100% locale, bio, de saison. Et elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, grâce au canot, qui a fait un mapping qui accompagne les structures à se mettre sur ces marchés publics, et donc la fabrique va dire « Tiens, telle structure répond à ce marché et tu verras, tu seras pris. »
Comment voyez-vous l'association dans 20 ans? Quelle évolution voyez-vous?
Le dernier séminaire qu'on avait fait, justement, ça a été l'un des sujets, donc pas dans 20 ans, mais dans seulement que 2 ans ou 5 ans. Et c'est déjà un enjeu, en fait. Parce que, donc là, tout ce que vous voyez autour de vous, tout est fait en économie circulaire, mais c'était donc depuis 2017, et on est en 2025, et ça vieillit. Et l'idée, par exemple, de ce site, c'est que ça soit une vitrine en mode « waouh » de l'économie circulaire, il faut qu'on le maintienne. Donc, comment faire pour garder cette image-là, pour continuer à sensibiliser encore plus? C'est un réel enjeu. Est-ce qu'il faut qu'on sorte de cette maison et qu'on aille sensibiliser aussi auprès de... Enfin, donc on parle de sensibilisation hors les murs. L'idée vraiment de tout ce mobilier en économie circulaire, c'est en mode, waouh, déjà c'est beau, c'est utile et c'est respectueux de l'environnement. Enfin, qu'est-ce qu'on demande de plus, quoi? La petite difficulté, c'est souvent le prix. Voilà, parce que ça fait appel à des métiers très soigneux. Et en fait, on n'a plus l'habitude de ça. On produit très rapidement et on est OK d'acheter des trucs de mauvaise qualité. Et là, ce sont des bons produits issus du réemploi, donc soigneusement, souvent avec une dépose, et ensuite reposés, reconstruits. Et donc, ça, forcément, ça coûte un peu plus cher.
Ces podcasts ont été réalisés par
Flora,
Juliette,
Timothée,
Zoé,
Mila,
Pablo,
Liam,
Ketia,
Kelly,
Elsa,
Léo,
Ala,
Judith,
Emma,
Évariste.
Avec l'aide d'Alban, Laure, Clémentine et Joséphine de l'association Transonore et de notre professeur d'anglais, Monsieur Combier.
Merci de votre écoute.